Bonjour, bienvenue sur Radio Méga, dans notre émission Underscore. Tout comme pendant le confinement, la question reste en suspens et ce que ça va sortir, l'IPv6, on va vous expliquer tout ça.
Ah.
Bonjour Cécile.
Bonjour à Méméman.
Coucou Cécile, coucou Méméman.
Et bonjour au doudou.
Bonjour au doudou.
Ça y est, on t'a retrouvé.
Ah, au doudou que nous avons... Nous avons retrouvé Roudoudou qui était coincé dans le Vercors. Heureusement, nous n'avons pas eu besoin de l'hélicoptère. Mais on y était presque. Hein. On s'inquiétait pour toi.
Il n'y a pas eu besoin du PGHM ?
Non, je suis rentré à pied.
Ah.
Par la Chine.
Par la Chine ? D'accord. En tout cas, d'après ce que nous dit Roudoudou, les sites naturels sont pris d'assaut.
Oui, alors plus l'après-midi, hein, le matin on reste quand même tranquille, mais l'après-midi ça se fait envahir, je crois que c'est un peu partout, en France pareil, hein. Il y a eu pas mal d'articles à ce sujet.
Ah, il y a besoin de nature, mais on va rester très numérique et tout de suite un peu d'actualité avant effectivement de parler de notre sujet du jour que MMN nous a proposé sur l'IPv6.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Allez, donc on fait de l'actu, qu'est-ce qu'on a ?
Alors, victoire pour LQDN et la LDH contre les drones de rappel à l'ordre. Suite au recours, l'ordonnance du Conseil d'État est une victoire historique contre la surveillance par drone. La décision reconnaît l'illégalité de tout drone qui, volant suffisamment bas et étant équipé de caméras, permet à la police de détecter des individus, que ce soit par leurs habits ou par un signe distinctif.
Oui, la LDH, c'est la Ligue des droits de l'homme.
Bientôt la fin pour la Hadopi. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les pouvoirs que la loi a donnés à la Hadopi pour identifier les personnes qui partagent des œuvres sur Internet. Mais il a donné 6 mois au gouvernement pour corriger le tir en faisant voter une loi. Et comme l'explique Marc Ries, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc il y a le lien vers Next Impact. En tout cas, la Hadopi ne s'estime pas vaincue. La haute autorité pour la distraction des opprimés du peer-to-peer et de l'Internet n'a donc pas fini de nous distraire.
Oui, c'est moi qui avais trouvé cet acronyme il y a longtemps. Le projet Curl propose un sondage à ses utilisateurs. Comme tous les ans, le projet Curl, qui est un outil en ligne de commande multiprotocole, et dont la bibliothèque est utilisée par de nombreux autres logiciels comme le navigateur NetSurf, demande l'avis de ses utilisateurs. La première question étant bien sûr lesquels des 24 protocoles supportés vous utilisez. Perso, j'ai coché la cause Gopher. Hein. Ah bah oui, on vous a pas encore parlé de Gopher dans l'émission ?
Exodus Privacy dépasse les 70 000 applications scannées. Rappelons qu'elle indique les permissions demandées et les trackers intégrés dans les applications du Play Store Android. Si une application manque, il vous suffira de copier-coller l'URL du Play Store et le scan s'effectue en quelques secondes.
Facebook accepte de payer 52 millions de dollars à des modérateurs atteints de syndrome de stress post-traumatique. Suite à une plainte de modérateurs actuels et anciens, Facebook accepte de compenser le stress post-traumatique causé par les nombreuses images qu'ils ont dû regarder pour filtrer les contenus parfois très moches publiés sur la plateforme.
Avis de naissance de Pauline, l'outil de préservation des disquettes. Les associations La Ludothèque Française, Game Preservation Society et MO5.com ont la fierté de vous annoncer que Pauline, un outil de préservation de disquettes de 3 à 8 pouces, est en cours de test. Pauline peut analyser la surface du support magnétique, repérer et corriger ses secteurs défectueux, puis numériser le flux de données afin de pouvoir le sauvegarder à l'identique, protection comprise. Il a été conçu par le créateur du HXC.
Microsoft débute la suppression du support 32 bits dans Windows 10. Ah, après Apple, c'est maintenant au tour de Microsoft qui tourne le dos au processeur 32 bits dans son OS. Si cela leur permet probablement de simplifier le code, cela veut aussi dire plus de support pour les vieux ordi. Plus support pour les vieux ordi, eh ben oui.
Microsoft publie le code source de GW Basic. Ouais, bon, c'est toujours pas le code source de Windows 7 comme l'avait demandé la FSF.
Pour soutenir le libre et aider à se déconfiner des GAFAM, Code Lutin verse 10 000 euros à la communauté. Si vous avez un projet ou une organisation dont l'objet correspond aux thèmes listés ci-dessous, n'hésitez pas à candidater. Donc il y a notamment développer un logiciel ou une bibliothèque libre ou open source, ou un travail de conception d'interface, traduction ou documentation. Initiative en faveur du développement et de l'adoption des standards ouverts, et puis plein d'autres choses, et notamment une initiative qui pourrait proposer des alternatives aux GAFAM. Donc le formulaire de candidature est à remplir avant le 12 juillet.
Le Parlement européen recommande fortement l'utilisation de licences libres pour les logiciels développés par l'Union européenne. C'est mieux que rien, mais on le sait tous, ce qu'est devenu la circulaire de recommandation du Premier ministre français quant à la priorité du logiciel libre. Il faut croire que quelqu'un manquait de papier toilette pendant le confinement.
Eh ouais. Une petite pause ?
Petite pause, on se retrouve tout de suite après pour notre sujet du jour sur les PV6. Bah, c'est pour quand ?
Bah, je sais pas encore, hein. Après la pause, je vous dirai.
Eh ben oui, à tout de suite.
Ça fait du bien.
Encore de la chiptune. Elwood, Deadlock. Et oui, un petit peu de chiptune, ça fait toujours du bien avant de commencer un sujet sur le numérique.
Et oui. Oui, oui. Donc IPv6, bah, je ne sais toujours pas pour quand c'est en fait. Comme le rappelle Wikipédia, les spécifications d'IPv6 sont prêtes depuis 1998, après 4 ans de travail. Donc ça date de 1994, le tout début, hein. Même si la standardisation officielle date de 2017. Alors, c'est tout d'abord une question de taille. En effet, dans IPv4, la première version utilisait largement de l'Internet Protocol, hein, le IP c'est pour Internet Protocol, définissait des adresses pour les machines sur 32 bits, que l'on représente habituellement avec 4 nombres séparés par des points. Chacun de ces nombres étant codé sur 32 divisé par 4, c'est-à-dire 8 bits, il est forcément entre 0 et 255. Donc si vous voyez un 256 ou 257 ou plus gros dans une adresse IP dans un film, bah c'est que leur conseiller technique est vraiment nul. Tout ça fonctionnait plutôt bien quand on avait quelques milliers d'ordinateurs, et rappelons qu'un patron d'IBM avait dit « il n'y aura jamais plus de 5 ou 6 ordinateurs dans le monde ». Voir quelques milliards, un peu plus de 4, hein, de puissance 32, ça peut aller jusqu'à un peu plus de 4 milliards. Sauf que bah, on arrive au bout, et on vous a déjà annoncé la pénurie plusieurs fois, hein, puisque les allocations se font par cascade, en fait, depuis les gestionnaires au niveau continentaux, et puis jusqu'aux fournisseurs d'accès, qui chaque fois récupèrent des plages d'adresses qui redistribuent, puis au bout d'un moment, bah, eux non plus, ils en ont plus.
Bien sûr, c'est sans compter qu'en fait, tous les ordinateurs connectés sur Internet ont une adresse IP.
Alors normalement, oui, ils ont une adresse publique, sauf qu'on a tous des box chez nous, même si théoriquement, c'est pas obligatoire, on peut avoir juste un modem et un routeur, et voilà. Mais effectivement, les fournisseurs d'accès distribuent souvent une seule adresse publique par abonné. Donc déjà, quand on a trois ordinateurs chez soi, bah en fait, on n'a qu'une seule adresse qu'on partage, hein, avec du NAT. Et puis maintenant, les FAI sont réduits à partager la même adresse IPv4 pour 4 abonnés. C'est ce que fait notamment Free. Donc tant que les abonnés n'utilisent pas les ports entrants, s'ils ne souhaitent pas auto-héberger des services, ça fonctionne. Mais certains se sont rendus compte que leur serveur chez eux n'était plus atteignable, parce qu'eux, ils hébergeaient des serveurs chez eux. Dans ce cas-là, eh ben, il faut demander une nouvelle adresse, ce qu'ils appellent full stack, pour soi tout seul. Et ça fonctionne parce que bah, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont besoin. Mais bon, c'est crade. Hein.
Bah oui, parce qu'au final, ça veut dire que si ton voisin télécharge beaucoup de films avec la même adresse IP que toi, ça veut dire que tu risques de recevoir une lettre Adopi, non ?
Alors du coup... Effectivement, en plus d'enregistrer l'adresse IPv4 que le fournisseur t'assigne, il faut aussi que le fournisseur se rappelle de quelle plage de port il t'a assigné, parce que sinon, effectivement, c'est ton voisin qui risque de recevoir les lettres de Adopi, ou c'est toi qui les recevras pour lui. Sachant que pour l'instant, effectivement, la Adopi est encore debout. Donc c'est donc un changement majeur d'IPv6, ils ont fait passer la taille des adresses. Ils ont quadruplé en fait la taille des adresses pour la passer à 128 bits. Donc pour épuiser la totalité de ce stock d'adresses, il faudrait par exemple placer 667 millions de milliards d'appareils connectés sur chaque millimètre carré de la surface de la planète. Alors même en imaginant qu'on va aussi en mettre sur Mars, ça fait quand même beaucoup. Et encore, chez Free, par exemple, on a une plage entière d'adresses IPv4 disponible par abonné. On a, je crois qu'on a, enfin, on a 16 bits d'adresses par abonné. Donc, ça, ce qui fait qu'on pourra avoir quelques millions de machines chez soi, avec chacune une adresse publique. Alors que chez certains fournisseurs d'accès, bah, faudra attendre encore longtemps, sans parler des terminaux mobiles qui ne sont connectés qu'en IPv4. Heureusement, ça avance. Selon Google, par exemple, on dépasse les 30% de couverture en IPv6. Mais bon, en 2018, l'IPv6 en France, l'ARCEP disait qu'il y avait un retard majeur de la majeure partie des acteurs. Et les opérateurs ne sont pas tous au même point. Mais comme d'habitude, c'est aussi une question de sous. Parce que ça fonctionne encore toujours comme ça, donc bah, pourquoi investir, hein, pourquoi investir? C'est comme la fibre, hein, le cuivre ça marche, ça fait 100 ans que ça marche, donc pourquoi changer, hein. Un autre problème aussi, du côté des administrateurs système, c'est que la taille d'adresse IPv6, bah, ça fait beaucoup plus de chiffres à mémoriser, et puis la notation change. Alors c'est plus des points, c'est des deux points, puis c'est en hexadécimal, donc ça fait beaucoup de choses à se rappeler. Quand on est habitué aux 192.168. Machin, ça complique. Par contre, ça permet d'obtenir un préfixe, comme je l'ai dit, en fait, pour un réseau entier, même pour une entreprise, le préfixe est le même et ça change pas. Donc, ça simplifie certains points. C'est pas une question que d'adresse non plus. IPv6 simplifie aussi l'entête des paquets, donc au niveau de l'implémentation, ça simplifie certaines choses, ça en complexifie d'autres, parce qu'on peut, vu que l'entête est plus simple, par contre, ça peut permettre de rajouter des options dans l'entête. Donc on ajoute des options à la suite. Ça permet aussi l'autoconfiguration en utilisant l'adresse MAC, c'est-à-dire l'identifiant matériel de la carte réseau. Ce qui pose aussi des problèmes en termes de vie privée, puisque l'adresse MAC c'est un truc qui est fixe. Et puis il y a quand même DHCP qui a été adapté, on peut quand même continuer à utiliser DHCP si on veut. Il y a d'autres protocoles de bas niveau qui ont été adaptés ou intégrés, comme ARP qui a été remplacé par ND pour Neighbor Discovery. Les routeurs en théorie sont plus simples, puisqu'ils n'ont plus besoin de fragmenter les paquets qui sont trop gros en cours de route. Si par exemple la suite du chemin requiert des paquets plus petits, ils peuvent se contenter de renvoyer une erreur à la source en disant bah désolé, ton paquet il est trop gros, renvoie-moi des paquets plus petits. Bien sûr, certains des protocoles et les outils pour mettre tout ça en œuvre n'étaient pas tout à fait finis, donc ça a pris un peu de temps. Mais néanmoins ça fonctionne, hein, puisque on peut d'ores et déjà se connecter sur plein de serveurs en IPv6 et certains le font sans s'en rendre compte. Alors il y a quand même des avantages et des inconvénients. Alors on l'a dit, dans les avantages, il y a beaucoup plus d'adresses IP disponibles. On repousse la pénurie de quelques siècles jusqu'au nanobot. Là je fais référence à un XKCD assez connu. On n'a plus besoin de NAT, donc de traduction d'adresse dans les box, en théorie, donc on n'a plus besoin de box. Ça peut devenir un inconvénient parce que du coup, il y a beaucoup de gens en fait qui font confiance aux box des fournisseurs d'accès comme si c'était un pare-feu. Et du coup, quand il n'y a plus de pare-feu, en fait, toutes nos machines sont disponibles directement sur Internet. Et donc, si on ne les sécurise pas, c'est un peu gênant. Le scanning de port devient un peu plus compliqué. Mais c'est pas pour autant impossible. Je l'ai déjà dit, donc il y a l'autoconfiguration qui permet d'avoir une adresse même si le fournisseur d'accès foire l'autoconfiguration. Et puis l'IPv6 permet de faire tout ce que les FAI détestent, comme certains l'ont déjà expliqué lors de conférences au RMLL notamment. Mais ça explique aussi du coup pourquoi ils traînent des pieds pour l'implémenter. Parmi les inconvénients, on peut citer que c'est pas directement compatible avec les matériels et logiciels supportant uniquement IPv4, en tout cas pas dans tous les sens. Si on a un serveur qui est connecté en IPv6 mais qui a qu'une adresse IPv4, en fait on peut s'y connecter parce que l'espace d'adressage d'IPv6 comprend les adresses IPv4. Il y a un préfixe qui est réservé pour coder les adresses IPv4. Mais néanmoins, il faut quand même que l'autre machine à l'autre bout ait aussi IPv4. Et puis, donc, j'ai déjà dit, chaque machine dispose maintenant d'une adresse publique, et donc elle doit être sécurisée, sinon ça pose des soucis. Et puis, les fonctions d'autoconfiguration d'adresse, comme on l'a dit aussi, peuvent poser des soucis de vie privée. Les adresses aussi, elles sont plus compliquées à mémoriser, puisqu'elles sont plus longues. Et puis, bah, les codeurs étant fainéants, il y a encore certaines applications qui ne supportent pas IPv6 correctement. Donc, bah, il vaut mieux tester quand même. Donc, pour citer Stefan Burstmeier, IPv6, c'est le vrai Internet. Monsieur Michu peut émettre et recevoir sans intermédiaire. Pour aller plus loin, je vous ai aussi réservé une petite liste de liens qu'on mettra bien entendu sur notre blog www.aa.fr. Notamment, bah, vous pouvez vérifier tout de suite si votre connexion fonctionne avec IPv6. Donc il y a des sites comme testipv6.com, puis tous les sites qui vous donnent votre adresse IP, la plupart vous donnent aussi votre adresse en V6. Il y a plusieurs conférences de Stefan Burstmeier, dont l'introduction à IPv6 ou l'exposé sur la transition IPv6. Il y a un site aussi qui dit comment désactiver IPv6. Bon, spoiler, on peut pas. J'ai trouvé une grille bingo IPv6 aussi, donc pour cocher toutes les cases. Et puis un générateur d'excuses pour ne pas passer à IPv6. Donc ça peut être marrant, mais bon, il va falloir quand même sauter le pas un jour.
Ouais, on va peut-être tous y arriver un jour.
Je sais pas quand, mais il va bien falloir y passer. Hein.
Un jour ou l'autre, on y passera tous.
Et ouais.
Merci Emmanuel pour ton sujet. On va passer une toute petite pause pour se retrouver après pour l'agenda et pour l'astrologique.
À tout de suite.
À tout de suite.
Ça, c'était un mode.
Oui, c'était une petite musique d'un crack taureau, Wings of Fury de Paradox.
Ouais. Passons à l'agenda.
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Qu'est-ce qu'on a? On a la Outline Online démo party. On l'avait pas vu venir. Donc ouais. On a oublié de vous l'annoncer la semaine dernière, mais en fait c'est ce week-end. Donc c'est encore aujourd'hui en visio sur Twitch, dépêchez-vous. On vous mettra bien sûr le lien sur www.aa.fr.
Vous avez la réouverture du Fab Lab, pour l'instant uniquement sur rendez-vous, mais si vous avez des choses urgentes à découper ou au laser ou à imprimer, vous pouvez aller aux nouvelles horaires d'ouverture, 9h30, 14h, 17h30. Toute venue se fait uniquement sur rendez-vous au numéro de téléphone 04 75 55 14 78. Nous vous rappelons que le Fab Lab, le 8 Fab Lab, est au 8 rue Courcomer à Cray.
Découvrir Movie Lab 2. Movie Lab est une plateforme collaborative permettant de partager des savoirs et expérimentations de transition vers des modes de vie durables. C'est un commun qui croise les cultures du logiciel libre, des pensées écologiques et la pratique des tiers-lieux. Un vrai trésor collectif d'infos et d'aides pour vos projets. Se documenter est souvent mis de côté dans le déroulé quotidien des actions. Pourtant, cela fait gagner du temps à vous et aux autres, si promis. Donc Benoît de Haas, de la compagnie des tiers-lieux, revient mardi 26 mai à 11h pour nous montrer comment créer et mettre à jour sa fiche de tiers-lieux.
Et puis, échange entre pairs entrepreneurs avec la French Tech in the Alps. Quoi de mieux que de parler à ses pairs entrepreneurs pour débloquer une situation ? Prochain sujet de cet échange franc et libre, le PGE. Venez trouver de l'aide et partager vos bonnes pratiques. Donc c'est en ligne sur inscription le jeudi 28 mai de 18h à 18h45.
Et du lien et des liens. Alors, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent ? Vous avez Framasoft qui nous raconte sa dernière semaine de confinement, car tout a une fin. Rude ?
Pardon, si je suis perdu avec le...
Ça se croit le temps que ça ?
Le magazine allemand ?
Le magazine allemand Return a un article en allemand, bien sûr, sur Emutos, TOS.
Oui.
Le clone libre du TOS de l'Atari ST.
La bande dessinée en ligne Comic Strip, si vous ne connaissez pas encore, caricature les codeurs en action.
Toujours plus de rétro gaming ou de rétro computing avec par exemple les vidéos de John Beta, dont donc une série sur la restauration d'un Amiga 1000 en anglais. Et la chaîne de Louis Rossman qui répare les machines Apple toute la journée à New York. Et il a des bonnes raisons de râler contre les supports d'Apple en anglais toujours.
Ouais, il a pas sa langue dans sa bouche. Dans sa poche. Dans la bouche, oui, dans la poche, non. Et il reste. Ouais, vas-y.
Le site Hackaday qui reprend de nombreuses histoires de bidouilles hardware et logiciels. On peut suivre leur compte Twitter ou le bot Mastodon pour se tenir informé.
Astronomique.
Wow. Allez, je frotte la boule de cristal. Allez, qu'est-ce qu'on voit ? Ah, oh, SysAdmin. Quand je vois la lenteur des FAI pour développer la connexion compatible IPv6, j'ai envie de crier « Ah !»
Ah. Ouais, c'est comme dans les DNS en fait. Les adresses IPv4, elles sont indiquées avec un seul A. Et les adresses IPv6, en fait, avec 4 A. Donc c'est pour ça qu'il faut crier beaucoup.
Et voilà.
Technophile.
Il y a un rumba par terre. Quand est-ce qu'il fait la poussière ?
Oui, oui, oui.
Nerd, synchronisé. C'est le saint patron des visios ?
Oh, codeur. Alors. Git, tu goûtes ?
Non, c'est Git.
Git,
tu goûtes ?
Musicien, Jacadi 3,5 mm.
Électronicien, quand on aime l'électronique, on célèbre les fêtes. Ouais, les transistors fêtes. Oh là là. D'accord. Oh là 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 là.
On est toujours aussi bon, hein.
Ah oui, non, mais là, ça n'arrête pas.
Ah, je m'en félicite. Eh bien, merci à mes auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de notre émission spéciale IPv6. Et on se retrouve la semaine prochaine, encore une nouvelle émission, toujours à distance, puisqu'on ne peut pas être au studio de Radio Méga. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Bye bye.
Bye bye. Bye, bye.